Radio Grand Ciel Chartres 106.8, bonjour. Aujourd'hui, le chemin du milieu présenté par Caroline Lorenz va vous conduire sur les traces du Feng Shui. Le Feng Shui est un art divinatoire ancestral permettant d'interpréter les forces en vigueur d'un lieu afin qu'il soit propice énergétiquement autant pour les vivants que pour les morts. Feng, le vent, flux invisible du ciel, énergie dynamique, messager de l'empereur céleste, observé par les devins dans l'Antiquité chinoise, révélait la prospérité de la terre. Shui, l'eau, flux visible de la terre, énergie nourricière, guide le vent, car si le souffle chevauche le vent, il se disperse. S'il rencontre l'eau, il s'arrête. Les anciens ne le laissaient pas se disperser s'il était amassé et le contenaient s'il circulait. C'est pourquoi on appelle cela Feng Shui, vent et eau. La démarche du Feng Shui consiste en premier lieu à trouver l'eau, en second lieu à retenir le vent, note Kuo Po dans le livre des sépultures. Un des trois augustes de l'Antiquité observa de sa double vision sur les écailles d'un dragon cheval un diagramme appelé « dessin du fleuve jaune », le « Retu », qui était composé de nombres pairs représentés par des ronds blancs et de nombres impairs par des ronds noirs, symbolisant le yin et le yang, représentant les lois de l'univers, peut-on lire dans le Li Qi, le livre des rites. Et il y a bien longtemps, lorsque Fuxi gouvernait le monde, il utilisa la carte du fleuve jaune pour créer les 8 trigrammes. Grâce à cela, il a expliqué le nom du trigramme Tien, le ciel, l'initiative, Kun, la terre, la disponibilité, Kan, l'eau, l'endurance, Li, le feu, la lucidité, Chen, le tonnerre, l'impulsion, Shun, le vent, la pénétration, Ken, la montagne, la stabilité, Tui, la brume, la communication, nous dit Wang Mingying, transcrivant ses points en lignes brisées et lignes continues, les assemblant par trois, ils sont la base de l'interprétation du I Ching, le livre des mutations, dans lequel on peut lire « Le ciel et la terre fixent les positions, le marais et la montagne transmettent le souffle vital, le tonnerre et le vent pèsent l'un sur l'autre et se recouvrent mutuellement, l'eau et le feu ne naissent pas l'un de l'autre ». Telles sont les interactions des Pakois, les 8 trigrammes. De cette façon, ils assument l'ordre qui est le leur. Les 24 positions procèdent de la même façon au sein du royaume des trigrammes. C'est ce que les anciens ont appelé le ciel antérieur. Quelques 2 siècles plus tard, alors que Yu le Grand, fondateur de la première dynastie royale des Xia, travaillait à endiguer les crues de la rivière Luo, il eut la révélation du Luo Shu, le livre de la rivière inscrit sur la carapace d'une tortue. La même carte composée de points blancs et noirs, mais dont la disposition différait, mettant en jeu le yin et le yang, les pakois et les 5 éléments, décrivant l'équilibre parfait de ces énergies dans leur cycle de transformation dans l'espace. Les anciens le nommèrent le ciel postérieur, le miroir du ciel. Le Yuan Qi, force vitale et primordiale du ciel antérieur, est insufflé au dragon terre par un axe ombilical de l'étoile polaire au Guizhi, le lieu du retour où toutes les eaux de la terre se jettent, mais qui ne débordent jamais. Dès lors, tous les êtres s'adossent au yin et embrassent le yang. Le souffle alors impulsé s'harmonise, lit-on dans le Tao Te Ching. La terre s'anime du reflet des mouvements des constellations du ciel. Ces lieux de réunion du tigre blanc et du dragon vert, vortex sur terre, sont l'esprit de la vallée qui ne meurt pas. C'est elle qu'on appelle la femelle mystérieuse. On l'appelle la racine du ciel et de la terre. Ténue tel un filament, c'est comme si elle était présente, même si l'on en fait usage, jamais elle ne s'épuise, sourit Lao Tse. De cette rencontre, le dragon devient brume, se condense en nuages. La laine du dragon précède les nuages, dévoile le Yiking, et s'élevant vers le ciel, redescend en pluie. L'interaction du yin et du yang, des cinq éléments et des huit vents célestes déterminera la qualité du qi en présence. Afin de trouver l'endroit parfait, les anciens imaginèrent à partir du Luoshu de Yu le Grand un carré magique appelé le Mingtang, le palais du destin, composé de 9 palais dont un central, celui de l'empereur. Une fois par an, selon le rite, afin d'établir le calendrier, l'empereur faisait le tour des pièces correspondant chacune à un point cardinal, un élément, une saison, une couleur et un astre, imitant les constellations tournant autour de l'étoile polaire, il édictait les lois relatives au travail et aux rites à accomplir à date fixe durant l'année. C'est ainsi qu'avec l'invention d'une sorte de boussole appelée Luopan, les maîtres géomanciens repéraient sur Terre les lieux énergétiques fastes ou néfastes à l'établissement de constructions, sépultures, palais, pagodes, monastères, jardins. On peut lire dans le livre des Odes que la capitale des Shang trône au centre de 4 quartiers et qu'elle est un centre cosmique, car le Chuqing continue de nous enseigner dans son texte sur l'astronomie que l'étoile polaire est le pivot du firmament, le centre du monde céleste, la demeure de l'empereur de Jade et que la capitale de l'empereur terrestre est le centre de l'univers terrestre et que situé au centre du monde, l'empereur est homologue à l'étoile polaire. Il trône comme elle face au sud, l'Orient à sa gauche, le Ponant à sa droite. C'est pourquoi Confucius, s'appuyant sur les écrits anciens, affirmait que le souverain qui règne par la vertu est semblable à l'étoile polaire. Il reste immobile au centre et tout évolue régulièrement autour de lui. Alors, on peut dire en accord avec M. Granet que lorsque les devins assimilaient au carré magique la rose octogonale de leur trigramme et rendait manifestes les interactions du ciel et de la terre, du yin et du yang, du carré et du rond, de l'impair et du pair, les maîtres de la divination pouvaient se vanter de coopérer à l'ordre universel, de la même façon que les grands chefs qu'en circulant de leur ming-tang carré. Ce centre autour duquel tout tourne régulièrement, appelé le Wuti, ce vide dans lequel tout prend forme, fut révélé à l'empereur jaune Huangti par la princesse obscure, afin qu'il puisse se repérer dans l'épaisse brume que lui avait craché Shiyu lors de leur lutte pour le pouvoir. Une première boussole symbolique qui l'aida au repérage de sa position dans l'espace, instaurant les quatre points cardinaux. Il est facile de se perdre sans s'en rendre compte à cause d'une mauvaise orientation, écrit Han Fei. C'est pourquoi les rois des temps anciens ont inventé un instrument indiquant le sud afin de repérer où se trouvaient l'est et l'ouest. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, se servant de la révélation des points cardinaux faite à Huangti, Ma Tsun conçut un instrument de repérage dans l'espace sous forme d'un chariot conduit par un cocher indiquant le sud de son bras tendu. On l'appela le chariot qui indique le sud. C'est une espèce de boussole mécanique qui garde une direction indiquée tout au long de son déplacement grâce aux différences de rotation des deux roues. Lao Tzu avait affirmé que ce sont 30 rayons de roues qui convergent sur l'unique moyeu, mais c'est ce qui correspond au vide qui permet qu'il y ait usage du char. Les habitants de Cheng, nous raconte Sun Qin, lorsqu'ils allaient chercher du jade, ils emmenaient un appareil qui signale le sud pour ne pas se perdre. Puis, peut-on lire dans le Yishi Chungchu, la pierre aimante sollicite le fer et l'attire. C'est que si la pierre est en position de mer par rapport au fer, elle est aimante. Elle a le pouvoir d'attirer le fer. Si elle n'est pas aimante, elle reste sans pouvoir, explique Huopo. Dans le commentaire du Yishi Chungchu de Chen Ka, essai sur les temps du rêve, il est dit que les mages frottent la pointe d'une aiguille sur une pierre d'aimant, l'équilibrent sur l'ongle ou sur le bord d'un verre pour qu'elle tourne plus facilement. Mais comme ses appuis sont durs et lisses, l'aiguille peut tomber. Le mieux est de la suspendre d'un fil de soie placé au centre de l'aiguille avec une goutte de cire de la valeur d'une graine de moutarde et en la pendant dans un lieu protégé du vent, l'aiguille signalera le sud. Certaines aiguilles qui, après avoir été frottées plus longuement, signaleront le nord. Les luopans, ces boussoles magnétiques dont la pierre d'aimant, la magnétite, s'aligne sur le champ magnétique de la Terre, prirent des formes différentes au cours du temps. Les armées de la dynastie des Song, avant de s'orienter de nuit ou par temps brumeux, utilisaient un bol rempli d'eau où flottait un poisson en magnétite qui indiquait le sud. Les maîtres de Feng Shui, en accord avec les astrologues et les astronomes, élaboraient des boussoles qui leur permirent de trouver le Shui, l'antre des noces du dragon vert et du tigre blanc. Elle prit la forme d'une cuillère à soupe chinoise, sculptée dans la magnétite, fixée sur un cercle de bronze représentant le ciel, lui-même ciselé dans un carré de bronze sur lequel, disposé en cercle, entourant le ciel, étaient gravés les 8 trigrammes et leurs 24 intersections, les 28 lunaisons, les 12 signes du zodiaque chinois, les cycles de l'année déclinés en saisons, troncs et branches. À nouveau, les écoles foisonnèrent. Le feng shui devenant pour tous l'art de l'aménagement de l'espace et du temps, l'art d'ordonner la terre sous l'influence du ciel. Chacune des écoles se disputait une méthode. Mais Wang Wei assure que seules deux écoles sont importantes. L'une est appelée la méthode du temple ancestral, le Mingtang. Elle est née dans le Fujian et son origine est très lointaine. Elle devint populaire sous les Song au Xe siècle grâce à Wang Ti. Cette école se fonde principalement sur les planètes, les trigrammes et sur le fait qu'une montagne Yang doit avoir une direction Yang et qu'une montagne Ying doit avoir une direction Yin, de telle façon qu'il n'y ait pas d'opposition. Elle fait uniquement confiance aux 8 trigrammes et aux 5 éléments pour déterminer les principes de production et de contrôle. L'autre école, poursuit Wang Wei, est la méthode du Qiangxi. Elle attache plus d'importance aux formes du terrain et à leurs potentialités. Elle détermine les positions et les orientations en fonction des levées et des limites. Elle s'intéresse uniquement à l'ajustement des dragons, des antres, des bancs de sable et des eaux et ignore le reste. Plus proche de nos sourciers, les devins de l'école de la forme décèlent l'endroit adéquat où se trouve la concentration maximale de chi menée par l'eau qui circule dans les veines du dragon, les voies de l'énergie tellurique. Les veines royales parcourent les chaînes de montagnes, élançant leurs pics, tranchant le ciel de leurs arêtes, s'abîmant dans les vallées. D'autres que l'on dit ordinaires dévalent des montagnes moins hautes au sommet plus arrondi. Les cohérentes entourent le site choisi. Les éparpillés, comme leur nom l'indique, se rencontrent un peu partout et suivent dans leur réseau des eaux terrestres un cours anarchique. L'important pour le maître de Feng Shui, de l'école de la forme, est de détecter la naissance et l'aboutissement de la veine, ainsi que son parcours sur les différentes formes de montagnes. Sur le corps du dragon, hauteur, forme, matière détermineront l'élément auquel appartiennent les montagnes, ainsi et par là même la qualité d'énergie qui passe dans ses veines influencera le lieu convoité par les maîtres. Les montagnes, aux pics perçant le ciel, sont feu, elles représentent le sud. La couleur correspondante est le rouge, la saison l'été, l'animal emblématique le phénix. Les terrasses sont terre, l'intersaison, le jaune, le serpent. Les ballons sont métal, l'ouest, le blanc, l'automne, le tigre. Celles constituées de roches friables, qui ont l'air de colonnes descendant du ciel, sont eau, le noir, l'hiver, le nord, la tortue. Et celles dont les sommets assez hauts se terminent en plateau sont bois, vert, est, printemps, dragon. Il arrive parfois que certains lieux qui, par la forme suggérant un animal emblématique, aient une force énergétique accrue, car il est dit qu'ils auraient absorbé le pouvoir du soleil et de la lune, les forces fondamentales du yin et du yang. Très actives sont les forces dynamiques du dragon volant, du serpent affolé, du lion à la balle ou du tigre rôdant. Mais si le tigre est à l'affût ou que le phénix déploie ses ailes, ou encore que la grue soit redressée, l'énergie sera limitée et ne se renouvellera pas après avoir édifié en ces lieux et ne profitera qu'aux premiers habitants. Mais ces animaux sont toujours porteurs d'une énergie bénéfique et contrecarreront toujours le chachi, les énergies démoniaques. Ainsi, les huit vents célestes faisant tourner les différents cycles du cercle des cinq éléments autour du point d'aspiration de l'énergie primordiale, octroient à l'être humain le lieu de vie du bien-être. Le ciel et la terre ont leur beauté, mais ne parlent pas entre eux. Les quatre saisons ont une régularité clairement définie, mais ne discutent pas. Le sage cherche les beautés du ciel et de la terre, et les maîtres les principes de toutes choses, conclut Zhuang Zi.
Thank you.